Bonsoir, comment allez-vous ? Mardi dernier, je buvais un verre au Café de Flore à Paris, quand sur le coup de 19h, une dame est entrée. Elle est restée plantée là, devant la porte quelques secondes, puis est allée s'asseoir à une petite table, près de la vitre, d'où on voyait bien le boulevard Saint-Germain. Ce soir-là, il faisait un temps épouvantable. Elle a enlevé tranquillement son manteau, son chapeau, son écharpe, ses gants. Elle a posé son sac, d'où elle a retiré son téléphone, ses lunettes et son guide de Paris. Elle était habillée un peu faite. Un garçon est venu lui demander « Combien serez-vous ?» Avec un fort accent irlandais, elle a répondu qu'elle était seule. Alors, il lui a poliment demandé d'aller s'installer à la petite table là-bas au fond, celle qui est soigneusement évitée par les habitués. Elle a donc ramassé son manteau, ses gants, son chapeau, son écharpe, son sac, son guide, ses lunettes, son téléphone et a déménagé tout son barda. Une fois posée là-bas, en plein courant d'air, elle a regardé avec un air rêveur toutes les tables libres et bien situées. Peut-être s'est-elle aussi demandé ce qu'elle n'était pas assez pour avoir le droit de s'y asseoir. Pas assez riche, pas assez célèbre, pas assez jeune, pas assez parisienne. Un homme élégant est venu la rejoindre. Au moment où il allait s'asseoir, elle s'est levée. Ils sont partis. Avec un joli sourire, elle a dit au revoir à la cantonade. Ce soir, c'est la Saint-Patrick, la fête des Irlandais. Si cette dame est encore à Paris, elle ira chanter et boire de la bière dans un pub bien au chaud. Ça m'étonnerait qu'elle revienne au Flore, mais j'espère qu'elle reviendra en France.
Bonjour, je m'appelle Sacha, j'habite à Berlin, j'ai 8 ans et j'aimerais demander pourquoi la bière fait autant de mousse. Merci, au revoir.
Pourquoi la bière fait autant de mousse, demande Sacha, Gérard Ligé-Belair.
Bonjour Sacha. Alors effectivement, la bière est très connue pour être une boisson qui fait beaucoup de mousse, notamment quand on la sert. Alors ça c'est lié au fait... Par exemple, quand tu te sers un verre de bière, tu vas faire en sorte que la bière va se mélanger et elle va incorporer des bulles d'air. Alors la particularité de ces bulles d'air qui sont incorporées dans la bière, c'est qu'elles sont maintenues de façon extrêmement compacte parce que dans la bière, tu as des tas de molécules qu'on appelle des molécules tensioactives en physique. Alors c'est un mot un petit peu compliqué, mais je vais t'expliquer en deux trois mots quel est le rôle de ces molécules. Des molécules tensioactives, c'est des molécules qui vont tout simplement tapisser les bulles. Elles ont cette propriété, et quand elles vont tapisser les bulles, elles vont les rendre extrêmement solides. Par exemple, à la différence des bulles, quand tu te sers un verre d'eau gazeuse, tu ne vas pas vraiment voir de mousse compacte, tout simplement parce que dans l'eau gazeuse, il n'y a pas de molécules tensioactives. Dans la bière, il y a des molécules tensioactives qui vont venir tapisser les bulles et qui vont les rendre extrêmement solides, ce qui fait qu'elles ne vont en fait quasiment plus éclater. Donc si elles n'éclatent plus, elles vont vivre très longtemps sous une forme de mousse très compacte.
Elles s'agglutinent, elles vivent, elles restent. Donc
exactement.
Il faut attendre.
Voilà, si on veut vraiment que la mousse de bière s'effondre, on doit attendre extrêmement longtemps.
Il y en a que dans la bière ?
Non, il y en a un petit peu partout, en plus ou moins grande quantité, mais il y en a effectivement des très grandes quantités dans la bière. Toutes les bières n'ont pas la même quantité de molécules tensioactives. Certaines sont extrêmement chargées, donc avec des mousses extrêmement compactes. D'autres, des mousses beaucoup moins chargées parce qu'il y a moins de molécules tensioactives.
Et alors la mousse du café qu'on aime tellement, ou du cappuccino par exemple, c'est des molécules tensioactives aussi ?
C'est exactement le même principe. Ah, c'est des molécules tensioactives qui vont venir tapisser les petites bulles d'air à la surface et qui vont les faire durer un peu longtemps. Donc ce qui fait cette crème très caractéristique.
Allez, bonne Saint-Patrick à tous. C'est amusant quand Gérard Ligé-Belair dit à Sacha « Quand tu te sers un verre de bière, c'est une façon de parler. Un enfant ne se sert pas un verre de bière, bien évidemment. » Gérard Ligé-Belair est physicien et photographe, professeur à l'université de Reims. Il dirige une équipe de chercheurs qui travaille sur les bulles. Dans les petits bateaux de ce soir, nous saurons, quand on traverse la Manche, si on est en France ou en Angleterre. Pourquoi la Joconde s'est retrouvée en France, justement, et pourquoi certains livres ont les pages qui jaunissent et d'autres pas.
Bonjour, je m'appelle Tom et j'ai 9 ans. Et je voudrais savoir si sans hiérarchie, le monde serait mieux. Au revoir.
Bernard Stiegler.
Ils sont très matures, ces enfants ou ces jeunes gens qui nous interrogent. Pas mal, je suis impressionné,
ouais.
Vraiment. En fait, je ne crois pas qu'il existe un monde sans hiérarchie. On en parle beaucoup en ce moment, parce qu'on dit qu'avec les réseaux sociaux, par exemple, tout le monde est égal, etc. C'est archi faux. C'est absolument faux. Mais avant de parler un petit peu de ces réseaux sociaux et de cette destruction apparente de la hiérarchie par les technologies électroniques, numériques, il faudrait se demander que veut dire hiérarchie. Ça vient de hieros, qui veut dire d'abord sacré. C'est-à-dire qu'à une époque, il y avait des sociétés dans lesquelles il y avait une partie de la société qui était sacrée. Le pharaon, par exemple. Le prêtre-roi. Le roi même soleil était un roi de droit divin. Donc il avait une dimension sacrale, religieuse. Il y a eu une désacralisation qui s'est produite, surtout depuis 2 siècles. Voilà. Mais ça n'a pas fait disparaître la hiérarchie, ça a produit une hiérarchie profane, c'est-à-dire qui n'est plus sacrée, qui est, par exemple, ce qu'on appelle, à tort ou à raison, les élites. Voilà. Et cette hiérarchie produit une différenciation sociale entre des gens qui sont meilleurs que d'autres. Alors qu'est-ce que ça veut dire, meilleurs que d'autres? Ça veut dire meilleurs que d'autres dans un certain domaine. Par exemple, Zidane, dans le football, domine la hiérarchie. Emmanuel Kant, dans la philosophie, domine la hiérarchie. Paul Cézanne, en peinture, domine. Et il y a toujours des différences. Il ne faut pas du tout dire qu'il n'y a pas de différence. Il y en a. Après, une hiérarchie, c'est une organisation sociale qui crée un ordre. Je pense que cet ordre, on en a toujours besoin. On en a toujours besoin. La question, c'est de savoir s'il est juste. Être juste, ça veut dire qu'il doit pouvoir se transformer. S'il devient injuste, parce que parfois les gens deviennent mauvais, il faut pouvoir les changer. Les dictateurs s'accrochent pour empêcher qu'on les change. Maintenant, les technologies contemporaines, numériques, nous disent, c'est leur argument de vente, il n'y a pas de hiérarchie chez nous. C'est archi faux. Si vous allez sur Facebook, Facebook vous manipule en permanence. La hiérarchie, c'est Facebook. Et Facebook, par exemple, prend des initiatives aujourd'hui absolument incroyables. Quand il y a des attentats en France, ils se mettent à produire des messages. À la place de quoi? De l'État français, de la hiérarchie politique française. Donc c'est très grave. Il y a une nouvelle hiérarchie qui se met en place, elle est cachée. Dans une société démocratique, elle est visible. On peut la critiquer, on peut la démonter. Dans ce système-là, elle est occulte. Donc je pense qu'il y a toujours la hiérarchie, parce que un monde, c'est un ordre, et cet ordre, il doit être ordonné, c'est-à-dire avec des domaines différenciés. Il y a des gens qui sont meilleurs au football que d'autres, etc. Et tant mieux, parce qu'ils tirent les autres, ils les élèvent. Mais par contre, aujourd'hui, on vit un changement de l'ordre social par les technologies numériques. Et le problème, c'est qu'il y a une lâcheté politique immense en France et en Europe en particulier. Plus personne ne pense ces questions. On dit on va imiter la Silicon Valley. C'est une catastrophe d'imiter la Silicon Valley. D'ailleurs, les électeurs de Monsieur Trump n'aiment pas du tout la Silicon Valley.
Bernard Stiegler est philosophe. Il enseigne à l'université de Compiègne, en France. Il enseigne à l'université de Brown aux États-Unis, ainsi qu'à celle de Nankin en Chine. C'est un voyageur. Il a écrit La Disruption, comment ne pas devenir fou, édité au Lien qui libère. Nous comptons bien entendu sur les parents pour expliquer les réponses un petit peu difficiles à leurs enfants. Les Anglais nous ont apporté beaucoup de choses. Le thé, les imperméables, les motos Norton, les Beatles. Break, break, Brexit.
Love me do. You know I love you.
C'était les Beatles, Love Me Do, Aime-moi, certainement plus facile à chanter qu'à dire.
Les petits bateaux sur France Inter.
En ce moment, c'est le Salon du Livre à Paris, qui s'appelle d'ailleurs Livre Paris, à la Porte de Versailles jusqu'au 18 mars. Quand on met un pied dans ce salon, on a envie de tout acheter, tant ces livres neufs sont attrayants. Les livres anciens sont attrayants aussi, par leur charme, leur odeur, leurs pages jaunies.
Je m'appelle David et j'ai 20 ans. Je me demande pourquoi certains livres ont leurs pages qui jaunissent, alors qu'ils ont la même récence et sont exposés dans les mêmes conditions que d'autres. Merci.
Même récence, pour dire le même âge, c'est un très joli français, merci David. Erika Schwarfer, c'est justement votre métier, vous êtes conservatrice, restauratrice, spécialisée dans la restauration des œuvres graphiques donc et des livres.
Eh bien, c'est une excellente question de David, avec une mise en contexte, pour ainsi dire, scientifique, puisque là, c'est quasiment un cadre expérimental où on a des ouvrages de même période, dans le même contexte, on va dire, de conservation, donc climatique, de température, de luminosité.
Ah oui.
J'imagine peut-être qu'il se faisait une idée par rapport à des ouvrages présentés dans un musée ou dans une bibliothèque. De la même période, l'un va jaunir et l'autre pas. Eh bien, à vrai dire, c'est pas parce que deux ouvrages ont été réalisés, reliés à la même période, qu'ils sont identiques en termes de matériaux. Tout d'abord, le papier peut, lui, ne pas être de la même époque. Et aussi, ne pas venir du même endroit. Il faut imaginer qu'un ouvrage qui a été réalisé au Japon au XIXe siècle n'est pas fait avec le même papier qu'un ouvrage réalisé au XIXe siècle en Occident, en Europe. Il y a effectivement des typologies de papier très variées. On a à peu près tout essayé depuis les tout débuts de la création du papier jusqu'à aujourd'hui. Et la teneur des fibres qu'il y a à l'intérieur des papiers, leur qualité et de quoi elles sont faites, leur pureté va jouer en la faveur ou la défaveur de la conservation de ces ouvrages.
Vous dites les fibres, finalement, est-ce que ce sont des fibres de plantes différentes ou ce sont des fibres, entre guillemets, tricotées différemment?
Ce sont des fibres de plantes différentes. Le système pour faire une feuille de papier est toujours le même. On va extraire, d'une manière ou d'une autre, la cellulose qui est présente dans une plante pour faire une feuille de papier. Le tissage, il n'y en a pas vraiment, puisque c'est juste une accumulation de fibres qu'on a mis en suspension dans l'eau. On les a prélevées pour faire cette feuille de papier. Donc, si on reprend l'exemple du départ de notre ouvrage du Japon, on va prendre une plante qui pousse au Japon pour faire notre papier. Donc, par exemple, les fibres kozo ou encore les fibres du mûrier, sont des papiers faits donc avec des fibres à 100% cellulosiques. Par contre, en Europe, nous avons au XIXe siècle l'industrialisation du papier, et là, on a affaire à un tout autre type de papier qui n'est pas 100% cellulosique, mais qui va être issu des arbres. On va essayer de rentabiliser notre fabrication de papier, et pour ça, les arbres s'y prêtaient bien, mais il est très difficile d'obtenir que la cellulose de ces plantes, parce qu'il y a d'autres choses dedans, comme par exemple des gommes, mais aussi ce qu'on appelle la lignine.
Qu'est-ce qui jaunit alors finalement, c'est ça?
C'est la lignine qui, parce qu'elle est instable à la lumière, va faire jaunir le papier.
Donc si on veut un papier qui jaunit pas, il faut un papier sans lignine.
Tout à fait, mais il faut prendre un papier 100% fibre de cellulose.
Quelle merveille le papier, quel dommage qu'il utilise les ressources naturelles, parce que c'est tellement plus agréable de recevoir une lettre sur papier qu'un mail par exemple.
Bonjour, je m'appelle Valentine et j'ai 15 ans et j'aimerais savoir pourquoi la Joconde est retrouvée en France au Louvre. Au revoir.
Valentine, Pascal Torres a écrit Les Secrets du Louvre. C'est édité à la librairie Vuibert. Pascal Torres, vous êtes conservateur en chef au musée du Louvre. Vous êtes également écrivain, puisque vous avez écrit cet essai, mais vous écrivez aussi des romans. Mais revenons à notre Louvre.
Alors Valentine, c'est vrai, il y a des peintures très célèbres. Et parmi ces œuvres tellement parfaites et ces peintres tellement exceptionnels, il y a Léonard de Vinci. Il se trouve que Léonard de Vinci, pour de nombreuses raisons, politiques évidemment, s'est retrouvé en France à se placer sous la protection de François Ier. Or, Léonard, arrivant à Amboise, eh bien, va offrir ses chefs-d'œuvre à François Ier, dont la Joconde, dont la Vierge des Saintes Anne, dont la Vierge du Rocher, dont le Saint Jean-Baptiste, etc. Et tous ses carnets, dessins, enfin, énormément de choses qui vont entrer dans les collections royales de François Ier. Depuis que la Joconde, peinte entre 1503 et 1506, est entrée dans les collections royales, elle ne les a jamais quittées, puis également, ensuite, elle est venue intégrer les collections nationales, puisqu'elle fait l'objet d'une nationalisation lors de la Révolution.
Mais Pascal Torres, la Joconde, Léonard ne l'a pas peint en France, il est venu avec d'Italie, non ?
Voilà, oui, absolument. Léonard a voyagé avec ses chefs-d'œuvre, tout comme la Vierge Rocher, etc. Ce sont des tableaux dont Léonard ne pouvait pas se séparer.
D'accord.
Il ne pouvait pas s'en séparer. Et puis, arrivant à Amboise, eh bien, sous la protection du roi de France, il offre ces tableaux à François Ier. Il est à côté, il demeure à côté, évidemment. C'est déjà un signe qu'il pensait qu'ils étaient achevés. C'est déjà pas mal, vous voyez.
D'accord.
Parce que la plupart du temps, Léonard avait des problèmes avec l'achèvement de ses grands chefs-d'œuvre. Alors, il offre ces tableaux au roi, et le roi en échange, le roi de France, lui donne une pension, c'est-à-dire que c'est un achat déguisé. Le roi n'achète pas. On offre au roi et le roi offre en échange une rémunération, on va dire. Voilà comment ça se passait.
Donc c'est pas un vol.
Ah non, c'est pas un vol, au contraire. C'est du propre chef de Léonard qui a décidé que ces tableaux seraient part intégrante de la collection royale française.
Ça fait un moment qu'on se demande si la Joconde nue qui est au musée de Chantilly est de Léonard de Vinci. Ce tableau a subi une batterie d'analyses scientifiques. Le verdict est tombé là, au mois de mars 2019. La Joconde nue conservée au château de Chantilly, au nord de Paris, a bien été réalisée dans l'atelier de Léonard de Vinci avec la très probable participation du maître. Entre autres, ils se sont fondés sur les mains, qui sont exactement les mêmes entre la Joconde habillée du Louvre et la Joconde nue de Chantilly.
Tu penses à quoi ? Aux rêves inutiles. Loin d'être sage, je songe comme un singe des villes. Tu penses à quoi ? Ému par l'univers, quand ma vie danse en transe aux bras de l'enfer. Qui résonne millénaire tes visages,
ma soleil,
ces histoires,
ma soleil,
et tous ces visages,
ma soleil,
si souvent. Cette vie toxique, je m'envole dans les airs. Béton armé dans une armure amère. Vague nausée, fébrile, fidèle, éphémère.
C'était M et sa fille Billy qui chantaient Massaï. Quelle famille c'est chez Did ? D'abord la mère, André, poétesse, écrivaine, prix Goncourt de la poésie, prix Goncourt de la nouvelle. Et puis le fils, Louis Chédid. Et puis le fils du fils, Mathieu, dit M. Et maintenant la fille du fils, Billy, 16 ans. Avez-vous déjà traversé la Manche entre la France et la Grande-Bretagne ? En avion, en train, en bateau ?
Moi, j'ai fait les trois, mais je suis très âgée.
Bonjour, je m'appelle Noël, j'ai 8 ans et je voudrais savoir, quand on traverse la Manche, si on est en France ou en Angleterre. Merci de me répondre.
Bonsoir Noël. Alors, Cyril Coutancet, vous êtes directeur de recherche du Centre d'études stratégiques de la Marine. Vous avez écrit « Les hommes et la mer » chez CNRS Éditions. Effectivement, entre la France et l'Angleterre, c'est de la mer ? Et c'est chez qui, demande Noël ?
Eh ben, en fait, Noël, c'est un peu en France et un peu en Angleterre.
Réponse de Normand.
Exactement, ça va avec la zone. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, on a des frontières à terre, par exemple entre la France, l'Allemagne, etc. Et en mer, on a aussi des frontières qu'on appelle des délimitations. Alors, ce sont des frontières qui sont définies par l'Organisation des Nations Unies. Il y a un cadre, il y a une convention qui a défini quels étaient les espaces maritimes. Et il faut savoir que la France est beaucoup plus grande, par exemple, en mer qu'à terre. La France est à la tête du deuxième espace maritime du monde. Parce qu'on a des territoires d'outre-mer qui sont importants, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, les Antilles, etc. Et tout ça, ça nous donne ce qu'on appelle une zone économique exclusive, une mer territoriale, qui sont absolument gigantesques. Donc on a le deuxième espace maritime du monde. Et alors c'est important parce que quand tu voudras, par exemple, voir un peu ce que tu veux faire comme travail, te trouver un métier, eh ben, essaie de penser à la mer, parce qu'en fait, il y a plein de choses très amusantes à faire en mer en ce moment. Il y a plein de métiers qui se développent en mer. Par exemple, tu pourras produire de l'électricité. En ce moment, grâce à cet espace maritime, on va mettre des éoliennes en mer. Alors, au large des côtes françaises pour l'instant. Il y a aussi des métiers qui se développent de plus en plus dans l'élevage de poissons, l'aquaculture. Il faut savoir qu'il y a la moitié du poisson qu'on mange qui vient de l'élevage, c'est-à-dire qu'on va pas le pêcher, mais il est élevé dans ce qu'on appelle des fermes aquacoles, et on va le ramasser, puis après tu vas le manger. Et en France, c'est un domaine qui est peu développé, mais qu'on va développer, notamment grâce à cet espace maritime. Il y a un autre domaine qui se développe beaucoup aussi, ça va te paraître bizarre si tu vas sur les plages l'été, parce que c'est quelque chose que t'aimes pas du tout, j'imagine, comme tous les enfants, ce sont les algues. Les algues, c'est quelque chose qu'on utilise de plus en plus, et que tu manges déjà, sans doute, parce que si tu as mangé des crèmes dessert, par exemple, des petites crèmes à la vanille ou au chocolat, et ben en fait tu as aussi mangé des algues. Si tu veux mettre des crèmes de beauté, et ben il y aura des algues dans tes crèmes de beauté. Donc c'est quelque chose qu'on va développer aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Cyril Coutancet-Marjorie, qui est un peu tatillonne, aimerait savoir jusqu'à combien de kilomètres de la côte en mer c'est encore la France.
Alors pour la Manche, en fait, on a fait du moitié-moitié. Parce que, en réalité, les espaces maritimes, qui sont définis par l'ONU, en gros, on peut aller jusqu'à 200 nautiques des côtes pour la zone économique exclusive, et même jusqu'à 300 nautiques des côtes pour un plateau continental étendu. Pour donner une idée, en fait, de l'espace maritime français, l'espace maritime français représente 11 millions de kilomètres carrés. Voilà à la tête de quel espace est la France aujourd'hui. Donc quand on compare à l'espace terrestre, évidemment, c'est pas la même chose.
Donc entre la France et l'Angleterre, moitié-moitié. Mais en revanche, y a-t-il des espaces plus vastes où finalement cette mer n'appartient à personne ?
Alors oui, effectivement, on a la haute mer, puisqu'en gros, chaque état côtier va tracer sa frontière maritime, sa délimitation maritime jusqu'à ses 200 nautiques. Et puis au-delà, c'est la haute mer. Donc la mer appartient à tout le monde d'une certaine manière. Quand je dis qu'elle appartient à tout le monde, c'est quasiment ça, puisque dans cette Convention des Nations Unies sur le droit de la mer qui a défini ces espaces maritimes, il est prévu une autorité internationale des fonds marins qui va s'occuper de tout le fond des mers, en fait. Et donc le fond des mers est considéré comme le patrimoine commun de l'humanité et l'ensemble des ressources qui y reposent. Et donc c'est quelque chose d'assez novateur, c'est-à-dire au lieu de se dire on va partager ça entre tous les pays du monde et les plus grands auront plus de portions que les plus petits, etc.
Ou bien premier arrivé, premier servi.
Premier arrivé, premier servi. On a dit ça appartient à tout le monde, même aux États qui n'ont pas la mer sur leur côte, les États sans littoral. Ça appartient à tout le monde et les ressources qui sont exploitées, qui viennent de ces fonds marins, le produit de ces ressources vont être reversés à peu près à tout le monde aussi.
Cyril Coutancet est donc directeur de recherche du Centre d'études stratégiques de la Marine. Il a eu la délicatesse de ne pas me reprendre. Ma question n'était pas bonne. Combien de kilomètres en mer ? On ne compte pas en kilomètres en mer. On compte en milles de la même manière. On ne compte pas la vitesse en kilomètres heure. On compte en nœuds. « Vous venez d'entendre une rediffusion des Petits Bateaux du 17 mars 2019, émission à télécharger ou à réécouter sur franceinter.fr. Cet été, notre site est ouvert, mais notre répondeur est fermé. Marjorie Devoucou, Eliane Gérard, Noël Bréham, nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à 19h30. Les Petits Bateaux répondront, entre autres, aux questions suivantes. Combien mesure une pelote de laine et est-ce que président de la République, c'est un métier ?